1. Dans cette édition, on entendra les pêcheurs hauturiers qui réagissent à l'annonce des deux nouvelles aires marines protégées. On parlera aussi de l'ouverture prochaine de la plus grosse distillerie du Fénois à la Presqu'île. Et pour terminer, le Temud qui se prépare à Moréa. Le journal de la mi-journée, c'est avec Lucie Rabréau. Bonjour Lucie.
Bonjour Sanchez, bonjour à tous.
Lucie, on commence donc au port où les professionnels de la pêche ont tapé du poing sur la table ce matin.
Oui, tapé du poing sur la table contre les nouvelles aires marines protégées officiellement annoncées ce week-end par Moëtei Broversen à l'occasion du festival Tainui Atea. Deux nouvelles aires au nord des Marquises et au sud des Australes qui font passer d'un peu plus d'un million à plus d'un million cinq de kilomètres carrés les zones à fort degré de protection au sein de la ZEE. En clair, les quelques 85 palangriers ne peuvent plus pêcher sur 35% de la zone économique exclusive. Une évolution forcément saluée par les ONG de protection de l'environnement, mais à laquelle s'opposaient les armateurs, les marins ou capitaines hauturiers. Ce matin, ces professionnels faisaient front commun pour dénoncer la surdité et l'entêtement du gouvernement. Leur demande ces derniers mois était pourtant claire, dresser le bilan des aires marines protégées créées l'année dernière avant d'en tracer de nouvelles. On écoute Vatea Moari, représentant du groupe Ocean Products Tahiti.
Les AMP qui ont été mises en place l'année dernière, elles sont toutes récentes. On n'a pas eu le temps de mesurer leur impact à la fois positif, à la fois négatif. Je pense que quand on dit que voilà, la filière et tout, elle n'a pas bougé, les rendements n'ont pas bougé, en fait, on ne tient pas compte de différents paramètres. Donc pour moi, on va beaucoup trop vite. Il n'y a pas d'analyse scientifique. Et donc, par rapport aux difficultés que traverse la filière actuellement, bah, effectivement, on ne comprend pas l'ordre des priorités du gouvernement actuellement.
Une incompréhension des professionnels, d'autant que la filière traverse d'importantes difficultés. Si les prises n'ont pas baissé l'année dernière, elles ont stagné. L'export a chuté de 30% en raison des mesures protectionnistes aux États-Unis. La perte temporaire du label MSC ou les quotas de pêche annoncés au niveau régional ne devraient pas aider à rétablir des chiffres d'affaires en baisse. S'ajoute la crise mondiale des hydrocarbures qui finira bien, malgré le soutien des autorités, par frapper la flotte locale et l'arrivée d'un super El Niño qui pourrait rabattre le poisson vers les zones protégées. Bref, les pêcheurs demandent de l'aide plutôt que des contraintes et demandent surtout au gouvernement de travailler au contrôle des navires internationaux plutôt que sur les palangriers locaux, comme le dit Guy Porseni du syndicat des marins hauturiers.
Il faut lutter contre ces gros navires, ces seigneurs-là qui se trouvent à la limite de la ZEE de la Polynésie. Vous partez à l'extérieur des Marquises, vous avez plus de 100 navires. Les navires extérieurs, un navire il fait 100 tonnes pour un jour. Un palangrier, lui, il fait à peine quoi, une tonne par jour. C'est vrai qu'on a un gros torsion, mais ce n'est pas contre nous qu'il faut protéger, c'est contre l'extérieur.
Voilà, et malgré ces demandes, le gouvernement a bien acté en Conseil des ministres extraordinaire les deux nouvelles aires marines protégées ce matin. Une décision déjà saluée à l'international, applaudie par les ONG internationales partenaires du pays, réunies au sein du Témoana collectif. Pour Yan Xing, président de l'association des armateurs hauturiers, Moëtei Broversen écoute trop ces organisations internationales et pas assez les professionnels locaux. Et à l'entendre, ça pourrait finir en mouvement social.
C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est si nombreux. On a le syndicat des marins pêcheurs hauturiers qui est avec nous. On a le syndicat, les syndicats des pêcheurs côtiers qui sont avec nous parce qu'ils savent que ces décisions-là, ça impacte toute la filière et ça impacte les emplois qui sont derrière. On représente plus de 2000 emplois, voire même encore plus. Et aujourd'hui, c'est tous ces emplois-là qui sont menacés. C'est les familles qui sont derrière qui sont menacées. Et au nom de quoi? Au nom de qui, en fait? Pour qui? Et on sacrifie la population polynésienne, on ne sait pas pour qui.
Voilà, Yan Xing, patron de Vini Vini, qui était au micro de Charlie René.
Moëtei Broversen avait déjà répondu à ses inquiétudes ce week-end lors du festival Tainui Atea.
Un festival du même nom que la grande aire marine protégée. L'occasion donc de faire cette annonce des 500 000 km² au large des Marquises et des Australes. Et pour le président du pays, les difficultés des pêcheurs n'ont rien à voir avec le classement de certaines zones en AMP. Écoutez.
On a déjà, un bilan, mais on a une certitude, c'est que depuis l'instauration des aires marines protégées l'an dernier, on a pas eu de diminution des captures. Donc notre pêche n'a pas été impactée négativement par la mise en place de ces premières AMP. Aujourd'hui, il faut tenir compte de l'environnement mondial. Autour de nous, les choses bougent. Certains pays veulent s'engager dans l'exploitation des fonds sous-marins. D'autres ont réouvert, par exemple, si je prends les États-Unis, ont réouvert des zones de pêche dans ce qui était autrefois un sanctuaire, une AMP de classe 1 et 2. Donc les choses bougent autour de nous. On ne peut pas rester immobile.
pas la faute des AMP donc, mais plutôt la conséquence de la hausse du prix des hydrocarbures ou encore des tarifs douaniers du président des États-Unis. Voilà ce qui a impacté notre capacité à l'export.
Ce qu'on va faire dans les mois qui viennent, dans les semaines qui viennent, c'est qu'on va travailler avec nos pêcheurs pour voir comment on peut les aider. Parce que si le volume de pêche ne diminue pas, c'est vrai qu'on observe des difficultés en termes de recettes. Et donc c'est là-dessus qu'il nous faut travailler ensemble.
En clair, le gouvernement veut bien discuter, mais ne reculera pas sur ses AMP.
Et on continue avec cette nouvelle qui arrive de Makemo.
Ça y est, Veitiari Fournier a pu enfiler enfin l'écharpe de Tavana. Sa liste était sortie en tête des urnes aux municipales en mars dernier, mais c'est son rival Félix Tokorani qui s'était fait élire. On se souvient de ces vidéos du 29 mars dernier, des cris de colère, des chaises jetées en direction du conseil par le public. Le Tavana sortant avait réussi à se faire réélire grâce au retournement de deux conseillers et surtout à une mauvaise répartition des sièges. Les opposants avaient tout de suite dénoncer des manœuvres et une victoire volée, une erreur pour le tribunal administratif. Et ce matin, Félix Tokorani a tout de même bénéficié de 5 suffrages dans cette nouvelle élection. 3 voix des élus de son groupe et 2 issus de la liste de Veitiari Fournier, sans doute les 2 conseillers qui avaient changé de camp. La nouvelle Tavana a bénéficié, elle, de 10 voix et a été très applaudie par une centaine de personnes qui étaient venues assister à ce conseil municipal.
Politique encore avec cette commission de l'Assemblée qui a validé samedi l'extension de l'ouverture des loteries de fête foraine.
Oui, c'est la commission de l'économie et des finances qui a adopté un projet de délibération étendant les dates d'ouverture de ces loteries. Le Turei de Utumauro a ouvert ses portes la semaine dernière, mais un stand pourtant très populaire est toujours fermé, celui de la loterie Tamara. Interdiction d'ouvrir avant le 25 juin à cause d'une réglementation vieille de près de 30 ans. Le gouvernement avait déjà soumis à l'Assemblée un projet de modification de la délibération de 98, mais ça avait fait jaser à Talahoy. Certains représentants s'inquiétaient de cette multiplication des jeux d'argent en marge des fêtes, de possibles problèmes d'addiction et ses conséquences économiques sur certaines familles. Le projet de délibération représenté en commission samedi reprend les dates de dérogation originelles de début juin à la fin août et pendant les fêtes de Noël en fin d'année. Et cette fois, unanimité en commission pour valider le texte qui doit maintenant encore être voté jeudi en séance plénière.
Et on parle maintenant de cette nouveauté. La plus grosse distillerie du Fénois a été construite à la Presqu'île.
Ce nouveau site de production doit être opérationnel en octobre dans la zone industrielle de Faratea, une 3e distillerie donc pour le groupe Brapac, une distillerie 2.0 comme l'appelle Marotea Vitrac de la Brapac. Il était au micro de Lucie Secarelli.
Ce sera la toute première distillerie de Polynésie construite sur un modèle industriel avec un point mort à environ 30 à 40 hectares de canne à sucre cultivée. Ça veut dire que le seuil de rentabilité, il sera à environ 30 hectares de canne à sucre pour la production et donc la commercialisation qui va suivre. Et c'est une distillerie équipée d'une colonne. Ce sera la toute première colonne designée spécifiquement pour le rhum pur jus de canne avec une faible consommation d'énergie, avec une faible consommation d'eau. C'est vraiment une distillerie 2.0 qu'on est en train d'installer à la Presqu'île.
Et le site pourra ainsi traiter jusqu'à 100 hectares de canne à sucre et 1 hectare, c'est un emploi direct, assure Marotea Vitrac. La distillerie va également participer au développement de la filière avec la production de nouvelles références en rhum. Cette distillerie sera donc la plus grosse du Fénois, vous l'avez entendu, mais elle veut aussi être vertueuse et innovante. Écoutez.
Un projet qui est parallèle à celui de cette distillerie, qui est le projet de la fabrication d'engrais à partir des coproduits de la distillerie. Parce qu'on a aussi imaginé dans le projet process complet, le traitement de tous les déchets générés dans la zone de Faratea, y compris la future zone aquacole de Faratea qui est juste à côté, qui va être capable de traiter par compostage l'ensemble des déchets et des coproduits qui vont servir d'engrais. Et également, et ça c'est un scoop, on va répondre à l'appel à manifestation d'intérêt produit par la DIREN avant le 30 juin pour composter les plastiques d'origine végétale sur place.
Cannes bio, retraitement des déchets en engrais, candidature à un projet de compostage de plastique biosourcé et c'est presque prêt, le bâtiment est déjà sorti de terre. Il attend maintenant sa conformité prévue pour le mois d'août avec une mise en service en octobre.
La ressourcerie de Maïna va fêter ses 2 ans toute cette semaine.
Et ça commence aujourd'hui. La ressourcerie a ouvert en 2024 et sur place, salariés et bénévoles collectent, valorisent et revendent des produits de seconde main. En 2025, 25 tonnes d'objets ont été collectées, 14 tonnes ont été traitées et valorisées. Et sur ces 14 tonnes, 60% ont été réemployées. 2 ans donc que cet espace existe et l'association environnementale Tiaï Fénois, créatrice de la ressourcerie, veut fêter ça. Atelier, grande vente solidaire et visite pratiques guidées sont au programme donc jusqu'à vendredi.
Et du surf aussi, ça se passe en ce moment même au Salvador.
Caolivast est toujours en course sur cette cinquième étape du Tour d'élite WSL à Punta Roca. Le surfeur de Veirao a éliminé le double champion du monde Felipe Toledo et retrouvera en huitième de finale João Tchanka. La compétition avait repris dans la nuit, heure de Tahiti, mais elle a été arrêtée. Prochain call demain.
Et on termine avec le Temud qui se prépare à Moréa.
Oui, peut-être vous rappelez-vous la première édition de l'année dernière en plein mois de décembre. Des parcours dantesques, quelques abandons, pour ne pas dire beaucoup d'abandons, la moitié des participants sur le 80 km et une grosse partie sur le 40, mais les organisateurs ont écouté les coureurs et revu leur tracé. Déjà, ce ne sera plus en décembre mais en octobre, histoire d'éviter les grosses chaleurs. Les organisateurs avaient évoqué un déplacement de la course à Tahiti, mais finalement, ils resteront bien à Moréa. Départ et arrivée depuis Témé pour toutes les épreuves et donc des parcours revus en espérant qu'il y ait moins de gens perdus ou d'abandon. Ils espèrent doubler le nombre de participants et passer de 800 à 1700 coureurs. Le directeur de la Ligue Ultra, Alexandre Piquet, au micro d'Alexandra Perini.
Alors, des gens qui se perdent entre elles, malheureusement, c'est quand même très régulier. Après, nous, là où on essaye de limiter, entre guillemets, le risque de perte, c'est de ne pas croiser les chemins. C'est-à-dire que tout le monde va dans le même sens. Alors, il y a un peu plus de coûts logistiques puisqu'en fait, on emmène les gens au départ et tout le monde arrive au même endroit à Témé. Mais nous, c'est le parti qu'on a pris, c'est d'avoir qu'une seule trace. Et par exemple, le 55, c'est les 55 derniers kilomètres du 105.
5 trails sont au programme avec donc un 55, un 35, un 20 et un 11 km. Et surtout, l'épreuve Rennes, 105 km avec 4520 mètres de dénivelé, la finale de la Ligue Ultra. Alexandre Piquet a rappelé que le Temud était aussi l'occasion de promouvoir le tourisme. L'année dernière, 200 étrangers étaient venus fouler les sentiers de l'île et cette année encore, plusieurs stars du trail sont attendues.
Globalement, on est sur une production de chiffre d'affaires pour le tourisme local à plus de 670 millions de francs pacifiques et qui sont répartis principalement avec soit les billets d'avion, forcément, qui est un des plus gros postes, et puis la partie hébergement. Et après, c'est vrai que les coureurs restaient globalement